Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Dans la matinée du lundi, le pape François a reçu en audience au palais apostolique du Vatican le premier ministre d'Arménie, Nicole Pachinian, un entretien confidentiel dans la salle de la bibliothèque qui a duré une demi-heure. Le secrétaire d'État du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales, Mgr Paul Richard Gallagher, a clôturé sa visite du 14 au 18 novembre au Cameroun, marquant la célébration du 10e anniversaire de la signature de l'accord cadre entre le Saint-Siège et ce pays d'Afrique centrale. Nous y reviendrons de l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi en Côte d'Ivoire et au Tchad. Les Sénégalais étaient dimanche aux urnes pour les élections législatives. Un scrutin largement remporté par le parti au pouvoir qui file vers une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Nous en parlerons de l'actualité sociopolitique sur le continent qui nous conduira aussi en Angola avant de conclure l'édition de notre programme avec notre invité du jour, le père Roger Sévo, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou au Bénin.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Dans la matinée du lundi, le pape François a reçu en audience au palais apostolique du Vatican le premier ministre d'Arménie, Nicole Pachinian, un entretien confidentiel dans la salle de la bibliothèque qui a duré une demi-heure. La fin de l'entretien a été suivie du traditionnel échange de cadeaux, le Saint-Père qui a remis pour sa part à M. Pachinian des volumes de documents pontificaux et le message pour la paix 2024, ainsi qu'une œuvre en terre cuite intitulée « Tendresse et amour ». Il s'agit d'une œuvre d'art qui exprime le message d'amour et de soin de la création, inspiré par les propres mots du pape François dans son homélie du 19 mars 2013 pour la messe du début de son pontificat. Prendre soin de la création, de chaque homme et de chaque femme, avec un regard de tendresse et d'amour, c'est ouvrir l'horizon de l'espérance, c'est ouvrir un regard de lumière au milieu de tant de nuages, c'est aussi apporter la chaleur de l'espérance. Dans un livre à paraître mardi 19 novembre, « L'espérance ne déçoit jamais, pèlerin vers un monde meilleur », et dont quelques extraits ont été révélés dans le quotidien italien La Stampa, le pape François a rappelé la nécessité d'intégrer tous les pays impactés par les immigrations, ceux de départ, de transit et d'arrivée, pour tenter de résoudre les conséquences des crises migratoires. S'arrêtant sur les pays en guerre, le Saint-Père a évoqué le cas des personnes fuyant Gaza. Il a même évoqué un possible génocide à Gaza, appelant de ses vœux à une enquête approfondie sur le sujet. Jean-Benoît Harel.
Selon certains experts, ce qui se passe à Gaza a les caractéristiques d'un génocide. Cela doit faire l'objet d'une enquête approfondie afin de déterminer s'il correspond à la définition technique formulée par les juristes et les organismes internationaux. C'est en ces termes que le souverain pontife s'est exprimé à propos de la situation humanitaire à Gaza dans son nouveau livre « L'espérance ne déçoit jamais, pèlerin vers un monde meilleur » à l'occasion du jubilé 2025 et puis paraîtra mardi 19 novembre. Le pape François évoque souvent la situation humanitaire à Gaza depuis plus d'un an et demande systématiquement un cessez-le-feu, mais c'est la première fois qu'il prononce le mot de génocide. Jeudi dernier, un comité spécial des Nations Unies a publié un rapport dans lequel il estime que les méthodes de guerre employées par Israël correspondent aux caractéristiques d'un génocide. Ce rapport sera présenté ce lundi à l'Assemblée générale de l'ONU. En réponse aux propos de François, l'ambassade d'Israël près le Saint-Siège a évoqué la légitime défense après l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Les opérations israéliennes dans le territoire palestinien lancées depuis ont fait plus de 43 000 morts, en majorité des civils, selon le dernier bilan du Hamas communiqué dimanche.
Rendons-nous à présent au Cameroun, où le secrétaire d'État du Saint-Siège pour les relations avec les États et les organisations internationales, Mgr Paul Richard Gallagher, a clôturé sa visite du 14 au 18 novembre, marquant la célébration du 10e anniversaire de la signature de l'accord cadre entre le Saint-Siège et ce pays d'Afrique centrale. Le prélat a exhorté les Camerounais à promouvoir davantage la paix par les moyens de la prière, la charité, l'accueil des étrangers et le partage équitable des biens du pays. Nous retrouvons notre correspondante Paul-Valérie Mendogo pour le compte-rendu de la clôture de cette visite.
De cette visite historique au Cameroun de Mgr Paul Richard Gallagher, représentant du Saint-Père le pape François, à la célébration des 10 ans de la signature de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République du Cameroun, l'on retiendra que les deux parties concernées désirent renforcer leur collaboration pour le bien du peuple camerounais. Mgr Gallagher a encouragé le peuple de Dieu qui est au Cameroun à continuer à faire bon accueil aux étrangers et aux déplacés internes, à prier sans relâche, à promouvoir la destination universelle des biens de la terre, le partage équitable de ces biens et la paix, en particulier dans la zone anglophone du pays, toujours plongée dans la crise sociopolitique.
Le Cameroun, qui hier était considéré comme une arche de paix, risque maintenant de perdre son prestige dans le concert des nations en raison d'une crise politique persistante dans cette partie du pays. Et cela a déjà porté un coup énorme sur l'économie et le vivre ensemble. Je vous exhorte et je vous tourne tous vers la prière. Aujourd'hui, plus que jamais, rien n'existe d'une prière humble, sincère et persévérante. N'oubliez pas, Dieu seul réussit là où nous les hommes et les femmes échouons par nos moyens matériels trop limités.
Mgr Paul Richard Gallagher a remercié la foule immense de personnes et des autorités politiques, civiles, militaires, traditionnelles et religieuses venues s'associer à la communauté catholique pour célébrer le 10e anniversaire de l'accord cadre signé le 13 janvier 2014 entre le Saint-Siège et la République du Cameroun. Paul Valéry Mondogo depuis Yaoundé pour Radio Vatican.
Chaque année à la mi-novembre, la Côte d'Ivoire commémore la Journée nationale de la paix. Déclinée en Journée nationale de prière pour la paix par l'Église, cette 28e édition a été célébrée vendredi 15 novembre 2024 au cours d'une messe solennelle en la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro. Dans leur message rendu public à l'occasion par Mgr Joseph Aka Kakou, ordinaire du lieu et vice-président de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale et du service du développement humain intégral, les évêques ont invité les Ivoiriens à puiser en eux les ressources intérieures nécessaires à la construction de l'œuvre de paix dans le pays. Les précisions de Marcel Ariston Blay.
La paix, quelle réalité aussi chantée, aussi célébrée, mais mise en même temps aussi en mal, font remarquer les évêques dans leur message, invitant cependant les Ivoiriens à ne pas s'enlacer de la rechercher car la paix demande un effort quotidien. Se remémorant la plus grave crise de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, notamment celle de 2002 d'octobre 2010, ces crises, à en croire les évêques, leur pays n'en est pas encore totalement sorti.
En témoignent les tensions politiques et sociales violente qui continue d'animer la vie des Ivoiriens. Nous voulons que chaque Ivoirienne, chaque Ivoirien, chaque habitante, chaque habitant de ce beau pays crie de tout son être, plus jamais ça.
Les prochaines élections dans le pays sont prévues se tenir en octobre 2025 et au regard de la situation politique actuelle marquée par un contexte de pré-campagne, les évêques disent être en droit de s'inquiéter de la tournure et du ton de certains discours appelant les Ivoiriens à la vigilance. L'opération de revision des listes électorales étant une étape importante en vue de la préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les évêques ont recommandé à la commission électorale indépendante qui en assure la charge de travailler dans l'impartialité, la vérité et la transparence en vue de garantir des élections paisibles et fiables.
Une telle rigueur consolidera notre système démocratique pluraliste et mettra notre pays à l'abri de tensions inutiles.
Marcel Ariston Blay, Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Et enfin au Tchad, le centre d'accueil de Donia, dans le diocèse de Gorée, a abrité du 12 au 15 novembre la réunion bilan des activités des écoles et lycées catholiques du pays, regroupant les directeurs diocésains, les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les chefs d'établissement moyens et secondaires. Plus de détails avec Edouard Takadji.
Cette rencontre s'est vue un cadre d'évaluation des activités de l'année scolaire écoulée et d'orientation pour la nouvelle année. Chaque année, faut-il préciser, les responsables de l'enseignement catholique se retrouvent dans un diocèse pour jeter un regard rétrospectif sur les activités de l'année écoulée, mais aussi de réfléchir et de partager les expériences pour une base solide de l'enseignement catholique au Tchad. Le directeur national de l'enseignement catholique, Singambay Sikré, Arthur, donne des précisions sur cette rencontre.
Penchons-nous tous sur les problèmes les uns des autres pour une réussite commune. Seul, on va vite, mais ensemble, nous allons plus loin. Mettons en commun nos efforts pour des fruits plus abondants.
Il évalue ensuite l'année écoulée.
Nous avons tous été témoins d'une très longue grève qui a affecté négativement les activités du secteur de l'éducation, mettant ainsi en péril l'éducation des jeunes, espoirs et cadres de demain. Les résultats obtenus nous consolent, nous réjouissent et nous encouragent. La majorité de nos établissements ont réalisé un taux de réussite de 100% au brevet de l'enseignement fondamental et 11 des 15 meilleurs établissements au baccalauréat sont les nôtres, dont 4 avec un taux de réussite de 100% au premier tour. Par ma voix, les évêques du Tchad vous expriment leur profonde gratitude, vous félicitent et vous encouragent.
Aujourd'hui, constatent les responsables en charge de l'enseignement catholique au Tchad, l'éducation catholique reste une force motrice malgré quelques difficultés qui compromettent son bon fonctionnement. Edouard Akadjindjamena, Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les Sénégalais étaient dimanche aux urnes pour élire les 165 députés de la 15e législature. Un scrutin largement remporté par le parti au pouvoir qui file vers une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. De Dakar, les précisions d'Abdoulaye Diédiou.
C'est dans le calme et la sérénité que les 7 033 850 électeurs inscrits ont voté pour départir les 41 partis et coalitions à liste. Les premières tendances issues des 338 040 électeurs de la diaspora ont largement milité en faveur de Pastef Ousmane Sonko, une tendance qui va s'accentuer en fin de soirée avec les dépouillements effectués dans les 16 440 bureaux de vote. Les résultats vont livrer une victoire nette et sans bavure du parti au pouvoir, le Pastef, qui file vers une majorité écrasante à la Assemblée nationale. Les dernières tendances qui en attestent placent provisoirement le PASTEF en tête avec 119 sièges contre 15 pour la coalition Diamant Diérine de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Après cette victoire sans conteste saluée par plusieurs candidats, le PASTEF Ousmane Sonko a à présent les coudées franches pour matérialiser ses promesses électorales dont la mise en place de la haute cour de justice, la probable mise en accusation du président Macky Sall et l'épineuse question relative à la criminalisation de l'homosexualité. Abdoulaye Diédiou, Dakar, Radio Vatican.
Au moins 6 personnes, dont 2 enfants, sont mortes dans le naufrage d'un bateau au large de Luanda, la capitale de l'Angola, ont annoncé lundi les autorités locales, alors que les opérations de sauvetage se poursuivent. Le bateau, qui faisait partie d'une procession maritime catholique, transportait plus de 30 personnes lorsqu'il a coulé au large de l'île de Luanda samedi, a indiqué la police de ce pays d'Afrique australe, sans pouvoir confirmer la cause de l'incident à ce stade. Initié en 2023 par l'archidiocèse de Cotonou au Bénin, le programme Église verte, en vue de parvenir à une conversion écologique de ses fidèles pour la sauvegarde de la maison commune, sera désormais national. Du 11 au 12 novembre 2024, s'est tenue dans le diocèse de Lokossa une conférence pour la mise en place d'une stratégie efficace de prise de conscience écologique intégrale pour une contribution substantielle de l'Église catholique au Bénin en vue de la sauvegarde de la création, conformément aux vœux du pape François. Dans cet entretien accordé à Radio Vatican, le président du comité d'organisation de la conférence de Lokossa, le père Roger Sévo, explique le bien fondé de la vision nationale du programme Église verte. Bien avant cela, il nous dresse le bilan des activités menées au niveau de l'archidiocèse de Cotonou.
Le bilan, de manière pratique, il y a plusieurs activités qui ont été menées depuis le lancement du programme. Au nombre de ces activités, nous pouvons citer quelques-unes. Il y a eu la sensibilisation des représentants de structures sous tutelle de l'archidiocèse de Cotonou sur le programme Église verte et les défis de l'environnement. Il y a eu la sensibilisation des points focaux désignés par les structures sous tutelle de l'archidiocèse de Cotonou en mai 2023. Il y a eu aussi l'atelier de mise en place d'un cadre de partenariat entre des structures non gouvernementale, toujours en mai. Nous avons eu du 1er au 17 juin 2023 des activités de reboisement dans le cadre des journées mondiales de l'arbre et journée internationale de la lutte contre la désertification. Nous avons eu différentes sensibilisations dans les écoles primaires sous tutelle de l'arcidiocèse de Cotonou en juin, puis la marche verte le 29 juin avec l'archevêque et des responsables politico-administratifs. Il y a eu la visite conduite par l'archevêque de Cotonou au centre Songaï de Porto Novo, c'est un centre écologique. Il y a eu l'organisation de la table ronde des partenaires présidée par le préfet du Dicastère pour le service de développement humain intégral.
Avez-vous le sentiment d'être parvenu à un changement de comportement chez vos diocésains quant à une plus grande prise de conscience dans la sauvegarde de leur environnement?
Bien sûr que oui, les comportements sont en train de changer. Je ne veux pour preuve que ce que je vois sur ma paroisse ici, sur les paroisses. Mais avant le programme Église verte, il y avait beaucoup de choses à redire, à refaire sur nos paroisses, sur le plan environnemental. Les gens deviennent de plus en plus conscients de la chose et il y a une réelle conversion qui s'opère dans les faits, dans les attitudes et puis dans les prises de parole au niveau des paroisses, pour ce que je peux dire. Ça, c'est pour les paroisses que je dis, mais nous avons des partenariats avec les structures gouvernementales et au niveau même de la cité, donc je veux parler de la ville de Cotonou, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de comportements qui ont changé, qui changent. La ville devient de plus en plus propre, mais le véritable problème maintenant, le challenge que nous avons, c'est et les sachets, les déchets non biodégradables. Et là, ça devient très sérieux.
Alors, le programme Église verte sera désormais national. Ça ne sera plus l'affaire uniquement de l'archidiocèse de Cotonou. La question a été abordée au cours de la dernière assemblée plénière de la conférence épiscopale béninoise. Pourquoi cette autre vision? D'où est venue l'idée de cette vision nationale?
Le programme Église verte a été initié par l'archevêque de Cotonou et nous étions en train de travailler à ce programme. Mais cette autre vision a été suggérée par le cardinal Michael Tierney, préfet du Dicastère pour le service du développement humain intégral, dans une correspondance qu'il a adressée à l'archevêque de Cotonou le 31 janvier 2024, après son séjour à Cotonou, où le programme Église verte lui a été présenté. Et dans cette correspondance, il disait ceci. C'est en tant que conférence épiscopale et pas seulement en tant qu'archidiocèse de Cotonou qu'il y aura un effort concerté et efficace à l'échelle du pays pour mettre en œuvre Laudato si et Laudate Deum, selon l'enseignement du Saint-Père. L'Église de Cotonou ne peut pas être verte si les autres diocèses restent bruns. C'est ce que le cardinal a dit dans sa correspondance à l'archevêque de Cotonou. Et c'est en réponse à cette recommandation du cardinal que, dans une démarche synodale, que la conférence de l'OCOSA a été organisée pour que nous reversions à la conférence épiscopale du Bénin qui avait lieu à l'OCOSA en même temps les recommandations et les conclusions de la conférence de l'OCOSA pour des décisions qui impacteraient toute l'Église. Voilà. Et donc, ce ne sera plus pour l'Église de Cotonou, mais pour l'Église du Bénin.
Justement, que savoir de cette conférence de l'OCOSA?
Le programme Église verte, c'est comme une appropriation de ce que le Saint-Père dit dans les deux documents que je viens de citer, à savoir l'encyclique Laudato Si et l'exhortation apostolique Laudate Deum. La conférence de l'OCOSA a été une réflexion principalement sur ces deux documents. Et c'est à partir de là que nous avons tiré des actions prioritaires que nous pourrons mener pour mettre en œuvre ces recommandations du Saint-Père en vue de la sauvegarde de notre environnement pour une conversion écologique intégrale.
Le père Roger Sévaux, vicaire général de l'archidiocèse de Cotonou et président du comité d'organisation de la conférence de l'OCOSA sur le programme Église verte au Bénin. Il répondait aux questions de Françoise Niamia et la suite de cet entretien vous sera proposée dans nos prochaines éditions.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Losambe qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.